Troisième jour de la semaine, la Grande Table poursuit son exploration culturelle estivale. Puisque tout finit par des chansons, à 13h30, nous passerons le micro à Charlie-Élie Couture en tournée pour son dernier album « Même pas sommeil ». Mais avant cela, c'est d'un droit, l'avortement, remis en cause dans de nombreux pays, en premier chef les États-Unis, dont nous allons parler. L'auteur et illustratrice Aude Mermilliot signe une bande dessinée « Il fallait que je vous le dise », publiée chez Casterman, qui fait le récit de son histoire. Expérience qui se heurte au silence, à moins qu'on ne croise un livre salvateur comme Le cœur des femmes de Martin Winkler, témoignant de ce vécu invisible. Ce silence est au centre des recherches de Laurine Tizi, dont la thèse s'intitule « Parler d'avortement », l'expérience de l'IVG des femmes sans enfants comme mise au travail des normes procréatives et sexuelles. Des paroles en creux, s'exprimant en pointillés ou par le dessin, Aude Mermilliot et Laurine Tizi sont aujourd'hui parmi nous pour en parler dans la Grande Table d'été. Bienvenue à tous sur France Culture.
La Grande Table d'été, Maëlys Bessery.
Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Aude Mermilliot, cet album, ce récit en bande dessinée, il fallait que je vous le dise, il commence un peu avec cette idée de si je dois écrire sur ce sujet, si je dois écrire et dessiner sur ce sujet, il faut alors tout dire.
Oui, moi c'était, comment dire, c'était ça l'intérêt. C'était pour moi ça avait pas de sens si je rentrais pas dans le détail de la confusion que j'avais ressentie à ce moment-là, justement en me disant que moi si j'avais entre guillemets digéré ce qui s'était passé pour moi, parce que ça faisait 8 ans au moment où j'ai commencé à écrire le livre. En revanche pour les femmes qui peut-être le vivraient, elle serait prise avec tous ces sentiments que moi j'ai vécu à ce moment-là. Et moi, l'intérêt pour créer de l'empathie, c'était vraiment de dire les choses éventuellement gênantes que j'avais pu ressentir pour qu'elle s'y retrouve, pour qu'elle se sente apaisée. Et que si je polissais un peu tout ça, ça n'avait pas vraiment de sens.
Alors les choses gênantes, elles apparaissent à divers degrés. Bien sûr, il y a le corps, la question de la sexualité, la question du corps aussi, de l'expérience de l'avortement corporel, le sang, vous parlez beaucoup de ça. Mais il y a aussi l'expérience de la parole et du langage, du langage médical notamment.
Ouais, alors moi, sur les... comment dire... quand je parlais de choses gênantes, moi par exemple, le truc que j'osais pas dire à ce moment-là, c'était plus que j'avais donné un prénom au fœtus que j'avais décidé d'aller me faire avorter. Ça rentrait. Parce qu'en fait, tout ce qui est attrait au corps, moi c'est quelque chose qui m'a pas plus gênée que ça, parce que, bon après là ça parle de moi, hein. Moi j'ai pas tellement de problèmes avec tout ce qui est de l'ordre physique, mais par contre j'étais beaucoup plus dans le silence et dans la gêne et dans la honte d'avoir... vraiment vécu ça comme un deuil d'une personne, en fait. Et ça, c'était beaucoup plus silencieux.
Alors, Laurine Tizi, c'est pas la première fois que l'avortement est un sujet de création aussi, d'inspiration, un sujet, un motif que l'on retrouve aussi dans l'écriture. Je vous propose d'écouter Annie Arnaud en parler. C'était dans son livre « L'événement » sur France Culture, où elle raconte l'avortement qu'elle a vécu à 23 ans de façon clandestine.
L'événement n'allait pas tout seul. Parce que écrire sur... un avortement subi, clandestin, je précise bien, c'est important, subi il y a plus de 30 ans, et n'écrire que là-dessus, c'est-à-dire de le prendre comme un événement, justement, comme un événement traversé par toutes sortes de choses que j'ai subies, que je n'ai pas compris sur le coup, et je pars à la recherche de tout cela par un travail d'écriture. Ça n'allait pas de soi. Et c'était... presque dangereux pour moi d'envisager cela. Mais lorsque j'étais dedans, tout m'a prise. C'est-à-dire que j'ai redescendu le temps. C'est ça, parce que c'est une expérience du temps de se trouver enceinte, de ne pas vouloir garder l'enfant et de chercher une solution. C'est le temps à travers le corps.
Laurine Tizi, qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit par Annie Arnaud? Il y a eu plusieurs temps de la parole aussi des écrivains, des auteurs qui ont parlé de leur expérience de l'avortement et d'une expérience en jeu, racontée en jeu.
Alors, en termes d'expérience de l'avortement, l'expérience d'Annie Arnaud, elle survient à une période qui est le moment de la clandestinité, qui est une période où les femmes, pour se faire avorter, avaient recours soit au service de médecins très peu scrupuleux, qui en faisaient un business, en fait, donc ils se faisaient de l'argent grâce à ça, ou à des avorteuses. Il me semble qu'elle, c'est une avorteuse, ça se passe dans des conditions absolument atroces, qui sont les conditions qui conduisent à la légalisation. Et en fait, on a pu assister à une forme de prise de parole des femmes, je pense en particulier à l'émission de Ménie Grégoire, qui est l'émission qui a eu lieu donc de la fin des années 60 au début des années 80 et qui couvre vraiment cette période de réflexion sur la légalisation de la contraception en 67 et en 75 la légalisation de l'avortement, et où cette émission-là, celle de Ménie Grégoire, est la première où des femmes qu'on peut qualifier de femmes ordinaires, c'est-à-dire des femmes qui sont souvent mères au foyer, qui sont souvent des paysannes, vont se mettre à témoigner de leur expérience à la fois de la maternité, de la sexualité, des problèmes de couple et en particulier de l'avortement, qui fournit un contre-pied en fait à d'autres voix qui ont pu être celles des militantes, par exemple du MLF, un peu plus tard du MLAC, des choses comme ça. Mais il y a eu cette prise de parole, oui, dans les années 70, qui a été portée en particulier par des écrivaines aussi, mais pas seulement. Je pense que c'est important aussi de voir qu'il y a eu une demande d'expression massive, notamment à travers l'émission de Ménie Grégoire au moment des années 70. En fait.
Alors sur la question de la parole, on aurait pu penser que c'était à cause de la clandestinité notamment qu'il y avait une sorte d'omerta, une difficulté à en parler. Mais ce que l'on voit dans la bande dessinée justement d'Aude Mermillio, c'est que cette parole, elle continue à être difficile alors même que l'avortement est légalisé depuis longtemps.
Alors, le fait que l'avortement soit légalisé transforme pas immédiatement les représentations que les gens s'en font. C'est-à-dire que, je prends l'exemple de l'Irlande actuellement, l'Irlande, donc, l'avortement a été légalisé il y a un peu plus d'un an maintenant, et en l'occurrence, sur 4000 médecins généralistes, il y en a que 200, 250 qui acceptent de pratiquer les IVG, pour une part parce qu'ils sont pas encore formés, et pour une autre part parce qu'il y a encore des représentations qui font que les médecins se refusent à pratiquer l'avortement. Donc il y a une forme d'évolution des mentalités qui est relativement lente, et comme on touche à la sexualité féminine, à une sexualité davantage récréative que reproductive, il y a encore une difficulté aujourd'hui à ce que les femmes s'expriment, alors même, il faut le rappeler je pense, que c'est un acte qui concerne une femme sur trois dans sa vie féconde, le recours à l'IVG.
Aude Mermillio, vous, dans votre bande dessinée, vous avez décidé de raconter cette histoire en deux mouvements, deux parties. L'une qui concerne votre expérience en jeu, Aude, c'est l'intitulé, et la deuxième, c'est l'histoire de Marc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce diptyque?
Alors Marc, de son famille Marc Zaffran et de son pseudonyme Martin Vinclair, donc qui est romancier et qui a été médecin généraliste et qui a pratiqué des IVG pendant 17 ans en centre de planification, je crois. Et moi j'ai rencontré l'auteur hein, parce qu'on m'a offert vraiment au moment où j'avortais Le cœur des femmes, son roman que j'ai lu, qui m'a fait beaucoup de bien parce que justement il montrait tout ce que les soins de la femme pourraient être et n'étaient pas forcément. Moi j'avais pas reçu des aussi bons soins, mais je m'étais dit ah ok, je comprends ce que je serais en droit de demander. Bon après faut être capable de le faire, mais
alors ça, faut expliquer
histoire.
Peut-être en détail ce que ça veut dire. Ça passe par un certain nombre d'attentions.
Oui, ça passe par de la non-intrusivité, c'est-à-dire il casse le côté, le rapport vertical entre le patient et le médecin, à savoir, il dit, moi j'ai fait médecine, donc je suis en mesure de vous apporter des informations que vous venez de me demander, mais par contre, on m'a pas donné une espèce de mission suprême à sauver votre vie malgré vous. Et donc, il n'y a pas à être intrusif, il n'y a pas à être... À faire du paternalisme bienveillant, ce que font malheureusement beaucoup de médecins, dans d'ailleurs de multiples niveaux, pas uniquement en gynécologie, mais par exemple les personnes obèses vont parfois pas se faire soigner parce qu'elles sont très mal reçues, et on va mettre tous les diagnostics sur leur poids, ce qui peut faire des erreurs de diagnostic, parce que vous venez pour une angine, mais je vais quand même vous dire que vous avez du poids à perdre, parce que je me sens de l'autorisation. Et si on met ça dans un cadre qui touche à des parties intimes, que ce soit l'urologie ou la gynécologie, c'est encore pire, parce qu'on est dans un moment de vulnérabilité, encore plus grand que si on a un problème au pied, par exemple. Et là, par-dessus ça, il y a la dernière couche du monde encore patriarcal dans lequel on vit, qui fait qu'on va plus s'autoriser à être paternaliste et intrusif avec des femmes qu'avec des patients hommes. Donc lui, il essaye de casser tout ça dans ce roman, où il montre vraiment une jeune interne qui arrive dans un service et qui va être un peu dépoussiérée de tout ce qu'elle a mal appris en études de médecine. Et lui, il va lui apprendre à écouter les patients, à leur faire confiance d'office, donc à pas penser que la patiente ment, par exemple, et à lui offrir toutes les options qui s'offrent à elle. Par exemple, ce qu'il a fait dans Contraception mode d'emploi, il parle de toutes les contraceptions possibles.
C'est un autre ouvrage,
pardon. Mais il dit les potentielles chances que ça échoue aussi. Donc quand il parle de la méthode du retrait ou des températures, il dit bon bah là il y a 25% de chances que ça marche pas. Mais moi je suis pas là pour vous dire que le meilleur c'est la pilule. Si pour vous le meilleur c'est le retrait, ça vous regarde. Mais par contre je vous dis il y a 25% de chances que ça marche pas.
Donc il précise voilà. Même hein, dans votre bande dessinée vous en souriez mieux que rien.
C'est mieux que mieux rien. Que voilà rien. Exactement. Et donc lui je l'ai rencontré par son travail et ensuite quand j'ai écrit. Mon scénario, je savais que Marc s'intéressait à la bande dessinée. Donc, je lui ai envoyé le scénario en lui demandant s'il voudrait bien écrire une annexe avec moi, avec un regard médical sur mon parcours. Et au fur et à mesure des entrevues qu'on a eues, je trouvais que sa vie était passionnante et qu'il y avait des choses qu'il n'avait pas mis dans ses romans. Donc, je me suis dit que ça allait être un peu gâché par une annexe et qu'il valait mieux en faire un récit en tant que tel. Et donc, c'est comme ça qu'on a ce diptyque où on a quasiment 50-50 du livre. Et ça se répond très bien parce que du coup, on comprend en lisant mon histoire et des attitudes de médecins qui m'ont reçu moi, on a une lecture de leur acte à eux grâce
et de sa démarche.
Au regard de Marc ensuite.
Et on a aussi un regard rétrospectif. Laurine Tizi, pour revenir sur ces questions qui ont été évoquées par Aude Mermilliot, il y a à la fois la question de la double domination sur les femmes d'un côté et le rapport patient-médecin.
Bien sûr, les deux s'articulent, et comme en l'occurrence, c'est quelque chose qui s'exerce sur le corps des femmes par une profession historique, celle des médecins, qui sont... aujourd'hui, c'est de plus en plus de femmes, mais à l'époque, c'était quand même des hommes, et il y a une vraie évolution historique. Donc si on parle vraiment de la prise en charge des IVG, il faut rappeler quand même que les démarches restent relativement lourdes, c'est-à-dire que, et c'est des données qu'on n'a pas forcément, entre le moment où une femme fait la première démarche pour avoir recours à l'IVG, c'est-à-dire le moment où elle va contacter... En général, elles sont perdues d'ailleurs, elles ne savent pas exactement qui contacter. Elles vont contacter soit leur généraliste, soit leur gynécologue, soit une amie, soit le planning familial. Mais elles n'ont pas... Maintenant, il y a le numéro d'information gouvernementale depuis 2015-2016. Mais à l'époque, les femmes ne savaient pas forcément à qui s'adresser directement. Et c'est des parcours de soins qui peuvent être compliqués par des médecins qui ont des réticences à faire des IVG. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas dire clairement qu'ils sont contre, mais qui, par exemple, vont refuser de dater une échographie de grossesse. C'est des choses qui arrivent. Ou dire qu'ils ne savent pas vers qui orienter les femmes. Alors, soit c'est de l'incompétence, soit c'est vraiment une volonté de retarder le parcours de soins. Mais on a des parcours de soins qui peuvent être assez longs. Et de toute façon, il faut une première échographie, il faut une attestation du médecin disant que les femmes demandent l'IVG. Et si vous faites une IVG médicamenteuse, il y a un premier rendez-vous en général pour prendre le premier médicament et un deuxième rendez-vous pour prendre le deuxième médicament. Dans la plupart des cas, même s'il n'est plus obligatoire, il y a un entretien avec une conseillère conjugale ou une psychologue qui font qu'il y a énormément de rendez-vous et que quand on utilise l'expression de parcours du combattant, ou en l'occurrence parcours de la combattante, pour parler de la trajectoire d'IVG, on est vraiment dans la réalité des faits, c'est-à-dire que ça reste quelque chose d'assez lourd pour les femmes en temps, en temps et en énergie.
Alors il y a une autre question qui a été soulevée justement par l'album, c'est la question sociale, c'est-à-dire que derrière la question de la condition des femmes et des difficultés d'accès à l'IVG, il y a des fortes discriminations qui se cachent et qui sont représentées d'ailleurs dans votre bande dessinée à travers le personnage d'Yvonne, qui va être un personnage charnière entre l'équipe médicale et le panel des patientes qui viennent. Est-ce que, Laurine Tizi, c'est une question que vous avez pu aborder dans vos travaux de recherche à travers la question de la parole et de l'accès à l'avortement, la question sociale sous-jacente ou en tout cas la représentation?
Alors, ce que moi j'ai pu constater, alors moi je réalise des entretiens avec des femmes et le mode de recrutement que j'utilise, c'est en général un flyer qui présente la recherche qui est glissé dans les dossiers des patientes. Et je me suis aperçue que les femmes qui me contactaient, c'est-à-dire les femmes qui se sentaient légitimes à participer à une recherche en sciences sociales, étaient des femmes de classe moyenne et classe supérieure, qui donc se sentaient légitimes à s'exprimer et à prendre la parole sur ce qu'elles avaient vécu. Et que j'avais beaucoup de mal à rencontrer des femmes, mais aussi parce que c'est pas forcément le milieu social dont moi je suis originaire, mais que j'avais du mal à rencontrer des femmes de milieux moins favorisés, alors même qu'elles ont tout autant recours à l'avortement. Donc l'enjeu, ça a été d'aller faire ensuite des observations dans des centres d'orthogénie pour me rendre compte un petit peu de l'expérience de ces femmes moins favorisées. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que toutes, et ça aussi c'est important de le rappeler, ont une très forte socialisation à la contraception, c'est-à-dire que même dans les milieux moins favorisés, populaires, les femmes sont très largement éduquées à l'idée que si on a des relations sexuelles, il faut avoir une contraception. Elles sont engagées dans des démarches de contraception, pilules, stérilets, qui sont plus ou moins fonctionnelles, et ça, ça caractérise vraiment l'ensemble des femmes. Donc, s'il y a des inégalités, bien sûr qu'il y en a, il y en a en particulier pour les plus jeunes, il y en a en particulier pour les femmes migrantes, des choses comme ça. Il y en a quand on a une découverte de la grossesse qui arrive très tardivement et que donc on est un petit peu à la limite des 12 semaines légales en France et que donc il faut envisager un voyage en Espagne ou dans un autre pays. Donc là, bien évidemment, à partir du moment où on est au dehors du délai légal,
ça génère des coûts, des déplacements, des démarches.
Évidemment, parce que si vous avortez à l'étranger, l'IVG est plus du tout remboursé, alors qu'en France, elle est grosso modo prise en charge à 100%, théoriquement prise en charge à 100%, mais parfois il y a des coûts qui peuvent se rajouter, des choses comme ça.
Mais outre les questions pratiques, d'un point de vue symbolique, il y a aussi la question de la faute originelle, à savoir le manque de maîtrise de contraception dont on est soupçonné. Aude Mermilliot, vous parlez beaucoup de ça, alors à la fois du sentiment d'injustice dans votre histoire, le stérilet n'a pas marché.
Moi, pour rebondir sur ce qui était dit là, c'est que moi j'ai eu pas mal de témoignages de femmes qui m'ont écrit. Moi, ça allait parce que j'avais un stérilet, donc j'étais excusée. Voilà, c'est la contraception n'a pas marché, ce n'est pas ma faute. Mais en revanche, effectivement, il y en a où elles sont beaucoup plus considérées comme fautives. Après, il y a une espèce de hiérarchisation des IVG plus ou moins légitimes. Donc, par exemple, si vous êtes une femme de 40 ans, que vous avez des enfants, que vous avez un mari, que vous avez de l'argent, mais qu'est-ce que vous venez avorter, madame ? En revanche, ça peut être l'inverse, ça peut être « Ah, ça va, vous êtes éduquée, par contre, vous auriez été une jeune fille, je l'aurais pas fait. » Donc, il y a une espèce de hiérarchisation qui parle plus du médecin et de sa vie que des patientes d'ailleurs dans ces cas-là. Mais ensuite, voilà, on a beaucoup l'espèce de préjugé de la jeune fille qui est tête en l'air et qui ne prend pas bien sa contraception. On a tendance à oublier que les jeunes filles sont 3 fois plus fertiles que des femmes de 45 ans, donc elles ont tendance à plus tomber enceinte fatalement. Et on a tendance à oublier, par exemple, que donner des microdosées, des pilules microdosées à des jeunes filles de 18 ans, ça ouvre considérablement les risques qu'elles tombent enceintes sous pilule, parce qu'elles sont microdosées et elles ont une fertilité dans le plafond. Donc voilà. Donc effectivement, on va dire qu'on n'est pas à égalité selon le milieu social, selon la contraception et selon ce qui s'est passé, donc le pas de chance ou l'oubli ou quoi que ce soit, sur comment on va être accueilli potentiellement par les soignants, quoi.
Alors vous parlez dans votre bande dessinée des différentes discussions que vous avez pu avoir. Alors il y a les discussions essentiellement avec des amis ou des gens plus ou moins proches, rarement des rapports au sein de la famille ou des discussions avec les partenaires ou le partenaire. C'est essentiellement le lien d'amitié qui est mis au centre de l'espace de discussion.
Moi, celui qui a été vraiment privilégié, parce que je me suis rendu compte très rapidement, en fait, comme socialement, on n'en parle pas, ou très peu, des fausses couches, des avortements, des dépressions postpartum, etc. Il y a quelque chose, il y a une espèce de silence qui englobe tout ce qui n'est pas joyeux de la maternité. Voilà. Donc, à partir de là, les gens ne savent pas comment en parler. Donc, on ne peut pas leur demander l'impossible. Donc, les seules personnes qui savaient en parler, enfin, qui savaient recevoir, en tout cas, ce que moi, je vivais, c'était soit mes copines qui l'avaient vécu, soit des mecs qui ne cherchaient pas à être autre chose que présent. Donc, tu veux que j'aille t'acheter à manger, tu veux qu'on regarde un film, tu veux que je te tienne la main, ok. Mais par contre, ils cherchaient pas à analyser. Alors qu'en revanche, mes copines filles qui n'avaient pas avorté, qui n'avaient pas eu d'enfant, etc., étaient dans la projection de ce que elles vivraient si ça leur arrivait, à savoir qu'elles me disaient « mais non, t'inquiète pas, c'est rien ». Et c'est très pénible quand, en fait, nous, on ne le vit pas comme quelque chose qui n'est rien. Donc, il y a un silence sociétal autour de l'IVG qui fait qu'on ne peut pas vraiment en vouloir aux personnes de ne pas savoir comment accueillir ça, tout simplement parce qu'ils l'ont vu dans aucun film, ils l'ont lu dans aucun livre, ils ne l'ont pas vécu familialement.
Il y a même un vide d'Internet, c'est ce que vous racontez, Aude Mermilliot. Il y a une sorte de vide d'Internet, c'est-à-dire que vous avez eu du mal à trouver des vrais témoignages. Vous en avez trouvé petit à petit, d'ailleurs, l'idée de témoigner vous-même à travers un roman graphique, donc qui fournit aussi un témoignage imagé du corps avec lequel vous vous amusez d'ailleurs.
Oui, moi, comme de toute façon l'image c'était mon médium, moi je me suis prise en photo, j'ai beaucoup écrit sur ce que je vivais au moment où je le vivais, mais effectivement Internet c'est une aide et c'est une catastrophe en même temps dès qu'on a quoi que ce soit de médical, parce qu'on va tous finir sur des forums, sur Doctissimo, et on ressort tous avec 3 cancers dès qu'on a fini de lire. Et là c'est un peu pareil, c'est un peu la foire à tout et n'importe quoi. Et aussi la foire aux mauvaises infos, parce qu'il y a tous les anti-IVG sur Internet qui se camoufle en pro-IVG, parce que le deuxième site, c'est IVG.net, après IVG.gouv.fr, et le .gouv.fr, il est quand même un peu austère, c'est celui du gouvernement, alors que IVG.net, il est très joli. Il y a des oiseaux, il y a des femmes qui sourient, c'est super la fête, mais sauf que c'est anti-IVG. Et je sais même pas pourquoi c'est encore légal, parce que normalement, la loi d'entrave à l'IVG est passée, et ce site existe toujours, et moi, j'ai appelé la hotline en me faisant passer pour la moi d'il y a 8 ans, l'année dernière, pour voir comment ils accueillaient les femmes. Et c'est du mensonge du début à la fin. Je vais faire une dépression, je vais être alcoolique, je ne trouverai jamais de mec, ça va être l'enfer, voilà.
Laurine Tizi, pour revenir sur cette question-là, c'est aussi la question, bien sûr, du contrôle des corps, d'un contrôle social fort des corps. Alors, à la fois par la formation des médecins, le type d'accueil prévu, et aussi cette parole qui a du mal à circuler. On parlait de l'accès à Internet et des sites pro-life.
Tout à fait. Alors, tout d'abord, il faut rappeler que les médecins sont très peu formés à l'IVG et à la contraception. C'est les travaux de Mogelli qui montrent ça. C'est-à-dire que dans le cursus médical, on parle à peine de la contraception et de l'avortement. Et un des soucis qui se posent aujourd'hui au centre d'orthogénie et au service de gynécologie, c'est que ils ont du mal à recruter des nouveaux et nouvelles médecins pour faire les IVG, parce que, tout simplement, l'IVG, c'est un acte très peu technique. C'est un acte peu valorisé dans la hiérarchie médicale. Je me souviendrai toujours d'une médecin qui m'avait dit « les internes, ils préfèrent faire les accouchements et les cancers du sein ». Donc en termes de technicité médicale, l'IVG n'est pas du tout valorisé, ce qui fait que avec le départ à la retraite des générations de médecins militants qui se sont battus, mais qui là, ben, voilà, arrivent à des âges où ils arrêtent d'exercer, on a du mal, justement parce que c'est un droit et c'est ancré dans les mœurs, à trouver des médecins qui aient envie de pratiquer les IVG, et c'est souvent des généralistes qui se chargent de prendre les vacations, bah, exactement comme Martin McClaire, dans les centres d'orthogénie, par exemple. Donc ça, c'est le premier point sur la formation des médecins.
Alors ça pourrait entraîner justement exactement l'inverse. On pourrait se dire, bah, si c'est un geste qui n'est pas si technique que ça, pas si difficile. D'ailleurs, Aude Mermillieu plaisante beaucoup à ce sujet dans sa bande dessinée, hein, justement sur la question du geste. Il pourrait y avoir des sages-femmes qui les pratiquent. Or, ce ne sont que les IVG médicamenteuses qui sont pratiquées par les infirmières et les sages-femmes.
Alors, que par les sages-femmes qui ont des compétences médicales, en fait, mais ça pose tout à fait la question de à qui revient le droit de faire les IVG. Et ça, c'était le grand débat qu'il y a eu en 75. C'est-à-dire que ce qui se passe en 75, c'est d'accord, on fera des IVG, mais on fait passer ça sous strict contrôle médical, ce qui faisait pas partie des revendications de tous les militants pour l'avortement. C'est-à-dire que le MLAC, par exemple, le mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception, c'est un mouvement qui revendiquait le self-help, c'est-à-dire la capacité des femmes entre elles à apprendre le geste et à le faire dans des maisons de santé, par exemple, mais en dehors du milieu médical. Je pense par exemple à la thèse de Lucille Ruau qui s'est intéressée à ce qu'elle appelle les MLAC dissidents, et ce qui sont les MLAC en fait qui ont continué à pratiquer des avortements après la légalisation, justement parce qu'il y avait des difficultés d'accès, mais aussi parce qu'ils revendiquaient un droit des femmes elles-mêmes à maîtriser un geste technique qui, somme toute, était assez facile et qui refusait d'une certaine façon l'autorité médicale dans le contrôle du corps.
Alors, on parlait de sites pro-life, on parle aussi de ce qui s'est passé aux États-Unis, en Alabama en particulier. On parle de recul en matière de droit à l'avortement, alors à la fois d'un point de vue législatif ou d'un point de vue du nombre de médecins qui les pratiquent. Je vous propose d'écouter Bertrand Rochambeau. Il était interviewé par Quotidien en septembre 2018. C'est le président du syndicat national des gynécologues et il déclare ne plus vouloir pratiquer l'IVG.
La motivation d'un médecin pour faire une IVG, qui est un acte particulier, on retire une vie pour aider une patiente en grande difficulté. Il faut donc être motivé pour le faire, parce que retirer une vie, c'est contraire à notre éthique. La loi nous y a autorisés en 1974. Et chaque fois que je l'ai fait, c'est motivé par la détresse de mes patients. Aujourd'hui, elle peut exister, tout à fait, mais la manière dont elle est exprimée et la manière dont la loi l'a tournée, la patiente n'a pas à exprimer aucune détresse, et nous-mêmes, nous n'avons surtout pas à nous informer de la détresse de la patiente, car ce serait indiscret, malvenu et maltraitant, dit-on aujourd'hui. Moi, je fais un métier avec mes tripes. Je me lève à n'importe quelle heure la nuit, je fais des opérations très difficiles avec mes tripes. Et donc, aux choses auxquelles je ne crois pas, je ne les fais plus.
Alors, Laurine Tizi, je vous laisse réagir à ce qui vient d'être dit par Bertrand Rochambeau.
Mais alors là, on est dans une forme de culpabilisation, à mon avis. Alors, faut rappeler d'abord que la notion de détresse a été supprimée du texte de loi il y a quelques années. Donc maintenant, l'IVG se fait exclusivement à la demande de la femme qui n'a pas à témoigner d'un état émotionnel particulièrement atroce pour y avoir droit. Il y a aussi, à mon avis, dans ce discours-là, une forme d'héroïsation de l'acte médical. Alors, il est vrai que les médecins travaillent dans des conditions qui peuvent être très difficiles et sont en général tout à fait dévoués à leurs patients et à leurs patientes. Donc, je remets pas du tout ça en cause. En revanche, s'en servir pour justifier de refuser un acte auquel les femmes ont droit, c'est quelque chose qui pose énormément de problèmes. Et là, la question qui est posée, c'est celle de la clause de conscience, c'est-à-dire à partir du moment où des médecins ont le droit de se déclarer, de refuser de pratiquer les IVG, ils en ont le droit, mais normalement, théoriquement, ils sont censés réorienter les patientes en France, ce qui n'est pas le cas. Le problème que ça pose, c'est que ça pose des questions, enfin un très grand paradoxe, qui est d'un côté, on a une loi qui autorise les femmes à avoir recours à l'IVG, et de l'autre, on a un certain nombre de médecins, en France, heureusement assez limités, qui refusent de les pratiquer. Problème, c'est la situation italienne, c'est quand on a une loi, donc les femmes sont tout à fait dans leurs droits quand elles demandent une IVG, mais quand on a 70% des médecins qui refusent de les pratiquer, la question qui se pose, c'est véritablement celle de l'accès aux soins. Donc en effet, on peut avoir une législation qui protège les femmes, mais une organisation des soins qui, dans les faits, est problématique. Oui. Cela dit, en France, à l'heure actuelle, on a un gouvernement Hollande notamment qui a été assez volontariste sur la question de l'IVG en réfléchissant beaucoup aux facilitations, enfin à faciliter l'accès et par exemple à l'ouverture de l'IVG aux sages-femmes. Il y a 2 ans, là, avait vraiment pour objectif de faciliter l'accès aux soins d'une façon générale. Même chose pour l'ouverture de la ligne d'information, etc.
Donc, même si c'est qu'une partie de l'IVG qui a été ouverte aux sages-femmes, justement, c'est l'IVG médicamenteuse. Aude Mermillio, vous parlez de cet état émotionnel complexe, puisque là, il s'agissait de culpabilité, ou plutôt de culpabiliser. Vous parlez de ces montagnes russes émotionnelles de part et d'autre. Et justement, ça passe par à la fois les petites attentions de la famille, un bouquet de fleurs, pas trop de remarques d'un côté, et puis les petits gestes que va trouver Martin Winkler, lui, de son côté, pour essayer de mettre ses patientes à l'aise.
Oui, alors, moi, pour le coup, j'ai pas ressenti de culpabilité. J'ai été triste, mais j'ai pas ressenti de culpabilité. Et en fait, c'est très particulier, ce truc-là, parce qu'on est vraiment sur une brèche. Moi, ce dont j'ai eu peur en faisant le livre, c'était de montrer que je vivais ça comme un deuil, de me dire « Oh mon Dieu, je donne du grain à moudre aux anti-IVG parce que regardez, cette fille est triste, elle a avorté. » Et ça me faisait peur. Mais ensuite, ce que je revendique, c'est « Ok, parfois la vie, c'est douloureux. Il y a des choses dans la vie qui sont douloureuses. Parfois, il y a des deuils d'un couple, d'un pays, d'un travail. Et c'est acquis qu'on a droit d'avoir un temps de tristesse. » Et pour l'IVG ou pour les fausses couches, il est passé sous silence. Et il doit pas être trop visible. Donc c'est ça qui crée toute une complication avec une tristesse qui devient sourde et qui devient tue et qui du coup peut durer plus longtemps que ce qu'elle aurait duré si elle avait pu être exprimée. Voilà.
C'est le discours même de Simone Veil devant l'Assemblée nationale. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Voilà, l'avortement de confort, je pense qu'il n'existe pas. Et c'est une invention des anti-IVG. Donc il y a ça. Et ensuite, effectivement, moi, je suis pas médecin. Donc j'ai toute l'empathie du monde pour les médecins qui pratiquent les IVG. Parce que oui, c'est pas un acte anodin. C'est un acte qu'il faut banaliser en même temps. Parce que c'est une femme sur 3. Donc c'est d'une banalité absolue parce que c'est une femme sur 3. En revanche, c'est pas du tout banal quand on le vit en tant que femme. Donc, faut réussir à accueillir ça. Et moi, c'est vrai que je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on parle pas de l'avortement dans les lycées? Sachant que quand on regarde une classe, il y aura un tiers des filles présentes qui vont le vivre. Pourquoi est-ce qu'on prévient pas? Ok, sans doute, il va vous arriver ça. Ce sera pas la fin du monde. Ce sera pas un traumatisme à vie. On va vous expliquer comment ça passe. Les garçons, vous serez à côté. Donc, vous écoutez. Tout le monde est, et voilà. Et que ce soit tranquille, ça fait partie de la vie des femmes de façon intégrante. Donc parlons-en en étant moins dramatique, quoi. C'est comme les fausses couches, c'est une femme sur 10, enfin une grossesse sur 10, je crois, et ça doit cesser d'être passé sous silence. Et à mon avis, le personnel soignant Bah, le parcours que raconte Marc, c'est exactement ça.
Alors, faut raconter cette histoire de Marc. Dans la deuxième partie de la bande dessinée, lui se pose la question de l'empathie. Il se met à la place des patientes, il rentre dans la cabine, il imagine ce que c'est que se déshabiller. Il faut d'abord, il y a besoin d'une chaise pour mettre ses vêtements. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les femmes aient moins peur quand elles attendent?
Moi, c'est cette scène-là, quand il me l'a raconté, je me suis dit, ça peut pas être une annexe, il faut que ce soit une BD, parce que ça, faut le montrer. Et en fait, avant ça, il y a le fait que lui, il pratique le geste et qu'il en a marre de faire mal. Et que faire mal à une femme, c'est désagréable. Et qu'il se rend compte qu'il commence à être paternaliste avec elle parce qu'il veut qu'elle ait plus mal, qu'elle n'ait plus à avorter. Donc, il leur bourre le crâne à un moment où c'est pas positif pour elle d'informations sur la contraception. Et vraiment, madame, faudrait que vous preniez ça et pas autre chose parce que pour vous, c'est parfait. Et c'est justement Yvonne qui va lui dire...
Alors, il faut expliquer qui est Yvonne.
Pardon, désolée. C'est donc l'infirmière qui, elle-même, a vécu une IVG, qui est féministe, qui a été vraiment une des premières à être volontaire pour aider dans ce centre avortement, et qui va lui dire, mais toi, ton rôle, c'est pas de juger ou de chercher à comprendre, c'est de leur faciliter au maximum la vie au moment, entre le moment où elles entrent ici et où elles sortent. Et lui, du coup, il va se poser la question, ok, bon, elles arrivent, elles se changent, elles savent pas où poser leurs vêtements, je vais mettre une chaise. Elles se mettent là, elles voient les bocaux avec le sang, je vais les tourner pour qu'elles le voient pas. Je vais mettre un coussin. Et donc, il va se mettre à réfléchir en empathie avec ce qu'elles vivent physiquement et de comment il peut faire pour que ce soit le moins désagréable possible.
Ça passe par des petites attentions, rajouter un oreiller, chauffer les instruments pour qu'ils ne soient pas glacés. Et dans le témoignage, il y a quelque chose de très visuel de par le médium que vous utilisez. Et il y a cette idée de, je me rappellerai toujours, de celles qui tiraient sur leur chemise de nuit qui remontait. Le témoignage, il passe aussi par ça, le fait de retrouver ces expériences-là qu'il a pu vivre.
Oui, on le voit très bien d'ailleurs dans son nouveau roman L'école des soignantes, qui est une espèce de suite du Cœur des femmes, où il y a énormément de chapitres, d'entre-chapitres qui commencent par « Je suis celle ». Et il y a une espèce de longue litanie de « Je suis celle ». Et ça pourrait tout à fait être « Je suis celle qui tire sur sa chemise de nuit parce qu'elle est pudique »,« Je suis celle qui n'arrive pas à monter sur la chaise obstétricale ». Voilà. Et effectivement, c'est une espèce de délicatesse et d'attention à tous ces détails physiques que vit une femme au moment où elle le vit, et l'espèce d'état de très grande fragilité et de vulnérabilité que toute personne a quand on s'assoit et qu'on met les pieds dans les étriers. Parce que quand même si on est costaud, que ça va, qu'on est à l'aise, c'est quand même, de par le fait de cette position-là, extrêmement exposant et très vulnérabilisant. Et avoir une attention portée à ça, c'est, à mon avis, c'est la clé.
Alors, il y a des situations extrêmement hétérogènes dans le monde sur ces questions d'avortement. Il a été beaucoup question ces derniers temps de l'Alabama et des États-Unis. Je vous propose d'écouter un extrait d'un discours du président Trump lors de la Marche pour la vie. C'était à Washington le 19 janvier 2018.
We know that life is the greatest miracle of all. We see it in the eyes of every new mother who cradles that wonderful, innocent, and glorious newborn child in her loving arms. I want to thank every person here today.
Alors, je cite, le président Trump dit « La vie est le plus grand miracle. Merci les personnes qui travaillent à apporter le soutien aux parents qui choisissent la vie. Ils sont les témoins vivants du thème de la marche, pro-vie. L'amour sauve des vies. » Laurine Tizi, on assiste à ce grand mouvement de recul sur les questions d'avortement aux États-Unis, qui est arrivé progressivement mais sûrement. La question de l'Alabama, elle a été symbolique.
Alors oui, alors il y a l'enjeu particulier des États-Unis avec l'enjeu de la modification d'un rapport de force à la Cour suprême, mais d'une façon générale, ce qu'il faut dire, c'est que les anti-IVG sont dans le monde un mouvement extrêmement structuré, avec des réseaux qui vont des États-Unis à la Russie, en passant par l'Espagne par exemple, en passant aujourd'hui par l'Italie de Salvini, en passant par la Hongrie. Ce sont des gens qui ont des ressources à la fois financières, mais aussi en termes de réseaux et d'organisations qui sont très importantes. Et là, bon, on parlait de la marche pour la vie, mais il y a eu en Italie, c'était fin mars dernier, le 13e congrès mondial des familles, qui sont un espèce d'énorme congrès en faveur de la défense de la vie, soi-disant, hein, je mets des gros guillemets quand je dis ça, avec cette idée, avec une rhétorique, en fait, qui est d'autant plus pernicieuse qu'elle propose un discours joyeux, un discours de défense de l'amour, etc., qui cache assez mal, à mon avis, une volonté de très fort contrôle sur les femmes, de retour des femmes au foyer, des choses comme ça. Et ce qui est pernicieux, c'est l'utilisation du vocabulaire des droits humains, C'est-à-dire qu'il y a une véritable réappropriation de ce vocabulaire-là pour se faire les défenseurs de quelque chose qu'ils veulent présenter en termes toujours positifs et qui vient masquer en fait le fait que c'est des attaques très fortes sur l'autonomie procréative et sexuelle des femmes.
Alors, situation qui existe aussi en Europe, dans d'autres coins du monde aussi. En Europe, l'Union européenne se veut très pro-avortement et pourtant, il y a des situations très hétérogènes en Europe, à Malte notamment, qui est le pays le plus conservateur d'Europe, où l'IVG est interdite, même si la vie de la mère est en danger, Laurine Tizi. Alors, il y a plusieurs situations comme ça dans lesquelles, finalement, la situation n'est pas simplement, elle n'est pas simplement une question de droit, mais c'est aussi une question de droit pénal.
Oui, tout à fait. Ben, comme le cas de la France avant 75. C'est-à-dire que, enfin, on est absolument certaine qu'à Malte, il y a des femmes qui avortent. Le problème, c'est que ça passe par des réseaux de clandestinité qui sont probablement très lucratifs et probablement très bien organisés, mais qui mettent en danger la vie des femmes. C'est-à-dire que cet argument sanitaire, qui a été l'argument sur lequel Simone Veil a bâti tout son discours. Simone Veil, c'était quelqu'un qui était absolument persuadé du droit des femmes à disposer de leur corps. Cet argument-là, à aucun moment, il apparaît dans son discours parce qu'elle est face à une assemblée d'hommes et qu'elle peut pas convaincre en utilisant la rhétorique de l'autonomie procréative et sexuelle des femmes, qu'elle est obligée d'en passer par un argument légaliste et un argument en termes de santé publique. Toutefois, à mon avis, l'enjeu principal, c'est de rappeler que aucune contraception n'est fiable à 100%. Rappeler que même des femmes qui suivraient très bien leur contraception, et il faut rappeler là aussi que c'est extrêmement difficile de bien suivre une contraception, pourraient tout à fait avoir recours à l'avortement. Plus des deux tiers des femmes sont sous contraception au moment où elles ont recours à une IVG.
Donc la question du recul, théoriquement, est-ce qu'elle est reliée à quelque chose? Est-ce que justement il y aurait des raisons liées à des contextes économiques et sociaux, à un contexte de tension particulier qui aussi générerait ce genre d'effet?
Alors, il y a la grande phrase de Simone de Beauvoir qu'on connaît, qui est que c'est toujours les droits des femmes qui sont les premiers remis en cause quand on est face à une
crise politique,
ou une crise. Voilà, c'est les premiers qui sont attaqués. En l'occurrence, dans le contexte des États-Unis, c'est une histoire nationale avec une très forte importance de l'Église, en particulier de l'Église évangélique, donc des conceptions chrétiennes très fortes qui ont la capacité de s'organiser en réseau. Donc il y a cet enjeu-là qui est très fort. Un pays comme la France, avec une déchristianisation qui a été très importante au cours des années 60-70, est beaucoup moins soumis à ce risque-là, encore que avec la montée d'une extrême droite et même avec un familialisme très conservateur, même à droite, hein, pas seulement à l'extrême droite, on est tout à fait en droit de s'inquiéter au vu des élections à venir. En 2002, à mon avis.
Merci à toutes les deux d'être venues aujourd'hui. Aude Mermillot, je rappelle le titre de votre album graphique, Il fallait que je vous le dise, et il est publié chez Casterman. Le Festival d'Avignon a démarré depuis quelques jours, et avant de nous y rendre la semaine prochaine, nous en avons des nouvelles grâce à Jacques Nerson. Jacques Nerson, bonjour.
Comment allez-vous?
On va très bien. Et vous êtes en direct d'Avignon. On entend les cigales. Jacques Nerson, donc, pour cette chronique en partenariat avec l'Obs. Et aujourd'hui, vous allez nous parler d'architecture, le spectacle de Pascal Rambert.
Oui, enfin, je ne vais pas vous en donner une critique. D'ailleurs, je crois qu'on en a déjà largement parlé dans les médias. Mais enfin, ça m'inspire effectivement quelques petites réflexions. Bon, comme chaque année, effectivement, Avignon, c'est la transhumance des théâtreux. C'est un très vilain mot, théâtreux d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi on n'en forge pas un autre, par exemple théâtrophile, sur le modèle de cinéphile, ça serait beaucoup plus joli. C'est peu ou prou mon 50e festival. Et pour le premier, en 1969, je n'avais que 15 ans, j'étais loin d'envisager une carrière journalistique. Je voulais, à l'époque, monter sur les planches, mais comme Sacha Guitry le rappelle dans Sans cruauté, aucun enfant n'a jamais dit à ses parents, plus tard, je veux devenir critique. Le premier festival auquel j'ai assisté a beaucoup compté dans cet amour du théâtre qui ne m'a plus lâché depuis, aussi bien l'autre soir en sortant l'architecture, cette pièce de Pascal Rambert qui a fait l'ouverture de cette 73e édition du festival, je me demandais quelle aurait été ma réaction si je l'avais vue à 16 ans, ou à 15 ans, enfin encore ignorant du langage théâtral. Je me serais sans aucun doute copieusement ennuyé, comme aujourd'hui, mais je me serais senti coupable d'avoir décroché en cours de représentation. À aucun moment je n'aurais songé à mettre en cause le talent de l'auteur, je me serais infériorisé, peut-être aurais-je complexé par mon manque d'intelligence, adopté un enthousiasme de façade et acclamé ce que je n'avais pas compris. Je vois beaucoup de spectateurs se réveiller en sursaut au moment des saluts et applaudir à tout rompre en jetant autour d'eux des coups d'œil inquiets, peur d'être dénoncé sans doute. Toujours est-il que je me serais dit que le théâtre n'était pas pour moi, et n'y ayant trouvé aucun plaisir, je serais allé tenter ma chance ailleurs. Des gamins partis à la découverte du théâtre comme je l'étais voici 50 ans, il y en a chaque soir plusieurs dans une salle. C'est forcé, surtout dans une salle de plus de 2000 places. Il est essentiel pour le renouvellement du public que ce premier contact ne soit pas rédhibitoire, qu'il donne aux novices un goût de revenez-y. Alors donc, je ne vais pas vous faire la critique d'architecture, mais je suis quand même étonné que les programmateurs du festival aient fait ce choix. Pascal Rambert a 50 ans, c'est quand même plus un débutant, ni même un jeune auteur. On sait, même s'il a connu quelques rares réussites, au premier rang desquelles le Clôture de l'amour, créé en 2011, en ce même festival d'Avignon, on sait que son théâtre est inégal, souvent difficile d'accès, voire rébarbatif. Choisir une pièce de Rambert qui n'était pas encore écrite pour la cour d'honneur du Palais des Papes, le phare du festival, c'était extrêmement risqué. Alors cette année, un nouveau dispositif a été mis en œuvre pour permettre à cette frange du public qu'on appelait autrefois le non-public, autrement dit les gens qui ne vont jamais au théâtre, de faire sa connaissance, un peu comme quand Sciences Po fait de la discrimination positive en réservant quelques places à des étudiants d'origine modeste. C'est une initiative louable, mais comment convertir ces non-spectateurs sans s'interroger sur le répertoire qu'on leur propose? Comment s'adresser à un public inhabitué au théâtre sans réfléchir au langage avec lequel on va lui parler? Le Festival d'Avignon ne fait d'ailleurs en ceci que refléter l'élitisme du théâtre public, son refus obstiné de se remettre en cause, son exclusion du grand public. Démocratiser la culture, oui, d'accord, à condition de ne toucher à rien notre petit système, de ne pas mettre en fuite les poètes officiels, ces vaches sacrées engraissées par l'État, en un mot, de ne toucher à rien.
Eh ben, vous ne mâchez pas vos mots aujourd'hui, Jacques Narson. Merci beaucoup, on vous retrouve demain pour une nouvelle chronique. À demain.
Merci. Thank you.
Abusei Junction, on entendait le premier morceau de Corococo, sorti en 2018. Leur nouvel album est sorti en mars dernier sur le label Bronzewood Records. Ils seront en concert au Nice Jazz Festival le 18 juillet, le 26 juillet au Cosmos Jazz Festival de Chamonix, le 1er août à Jazz in Marcillac et le 3 à Paris, au Jazz de la Villette. Il est 13h30 sur France Culture et si vous nous rejoignez, c'est la deuxième partie de la Grande Table d'été avec pour invité le musicien, peintre et poète Charlie Couture. L'oiseau ressemble à un vautour, un gypaète barbu qui déploie son aile sur l'univers poético-rock du chanteur. Il recouvre un album, Même pas sommeil, qui accompagne le retour en France de Charlie Couture. Pour le reste, les 50 poèmes inchantables, je cite, il y a un recueil, La mécanique du ciel, paru au Castor Astral. Quant à la peinture, c'est encore une autre histoire. L'artiste polymorphe, musicien, peintre et poète Charlie Couture est aujourd'hui parmi nous pour le portrait de la Grande Table d'été.
Sous un soleil de plomb, en mangeant une figue, saoulée par la fatigue, torpeur et inertie, la bouteille est finie. C'est un été comme le son, ceux d'aujourd'hui. Ça sent le caoutchouc, la chaleur est partout. Dans le ciel, trois canadaires filent vers un incendie. Où qu'on soit sur la terre, en plus un souffle d'air. En ces heures caniculaires.
C'est les heures caniculaires. Bonjour Charlie Couture.
Ça va, il fait moins chaud cette semaine.
Il fait moins chaud, mais quand même. C'est bien ça, c'est bien un gypaète barbu.
C'est ça, oui, oui, un vautour, c'est pas un aigle. C'est pas un pirate, par exemple, américain. C'est un gypaète.
Un gypaète.
Alors, photographié par Vincent Munier.
Vincent Munier, photographe animalier. Oui. Il y a plusieurs questions, notamment celle qu'on est en train d'entendre, les heures caniculaires, qui parlent d'écologie.
Ouais. Eh ben, écoute, c'est difficile aujourd'hui d'exercer un métier lié à l'expression du sentiment humain, c'est-à-dire le métier d'artiste, sans parler des angoisses qui sont celles de tout le monde, liées aux chiffres qui nous sont donnés, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, quand on parlait de toujours, ça signifiait pour toujours, et puis depuis quelques années, ben, on sait qu'il y a des échéances qui sont beaucoup plus courtes que quelques centaines d'années, mais que ça se compte en dizaines d'années. On entend les experts, alors du coup, ben, immanquablement, ça réapparaît d'une manière ou d'une autre dans les sujets qu'on aborde quand on est soi-même inspiré par la vie, par ce qui nous entoure. C'était mon copain Richard Texier qui disait que les artistes ont une préscience, c'est-à-dire c'est même pas une science en fait, on a une sorte d'intuition de... On réagit pas face à la réalité en fonction de chiffres, mais en fonction d'émotions, c'est ça, être un artiste.
Alors chez vous, c'est un engagement qui est relativement ancien, en tout cas c'est des questions qui vous taraudent depuis un moment, mais c'est une question aussi que vous adressiez un peu à votre descendance dans cet album.
Oui, parce que quand l'une de mes enfants choisit de s'inventer une suite, logiquement, on s'inquiète pour elle de ce que ça va devenir, parce que encore une fois, des échéances à quelques dizaines d'années, ça fait que déjà pour eux, ça va être difficile. Et quand quand il fait 36 degrés au pôle Nord, quand les glaciers fondent, quand etc., etc., quand la mer elle-même est envahie de détritus et qu'il y a plus de déchets que d'animaux vivants, ça devient absolument n'importe quoi. Et on attend que les politiques interviennent, prennent des décisions sérieuses et conséquentes. Au lieu de ça, ils sont dans un état de réponse à très court terme.
Alors vous rentrez des États-Unis, justement. Ouais. Vous avez fait beaucoup de peintures, d'art visuel aux États-Unis. Vous avez vécu de votre peinture là-bas, ouvert votre galerie à Manhattan.
Oui, mais quand tu dis fait beaucoup de peinture...
C'est-à-dire que vous n'êtes pas connu comme un peintre en France, moins, beaucoup c'est, plus comme un musicien.
C'est vrai, mais c'est la raison effectivement pour laquelle je suis parti. J'avais fait une centaine d'expos quand je suis parti m'installer à New York, parce que j'avais un peu le sentiment que les gens, m'entendant parler de peinture... imaginez qu'il s'agissait d'une activité annexe, comme un violon d'ingres, sans pour autant considérer ni que j'étais ingre, ni le violon. Donc,
alors que c'était le point de départ.
Alors qu'au départ, c'est ça, j'ai fait les beaux-arts et j'ai terminé mes 5 années avec le diplôme national supérieur, machin. Et donc, j'ai toujours essayé d'intégrer l'un dans l'autre et l'autre dans l'un, entre guillemets, ce qui fait que j'ai pu dessiner mes pochettes très vite ou réaliser des clips ou tout ça, mais au-delà de la technique, le multisme que je défends, c'est l'idée que être
multisme, hein, vous utilisez ce terme, multisme,
multi-artiste, si tu veux, c'est pas une expression qui est de moi, mais de Mario Salis, et qui est de faire la différence entre manipuler, maîtriser une technique, si tu veux, qui est une chose, mais qui est en fait le propre des artisans, ou bien essayer de trouver la manière la plus juste pour raconter ce qu'on ressent. La notion du sentiment humain est une notion universelle, mais qui dépend de l'air du temps un petit peu. Elle évolue. Quand on est face à soi-même, il n'y a pas de technique pour résoudre une peine de cœur, si tu veux. Simplement, quand on est artiste, c'est qu'on est plus sous le fait de ses émotions que sous le fait, celui de la raison, ben on a du mal dans une société qui se veut de plus en plus rationnelle, de plus en plus technique, mais assumer sa part d'émotion, ben c'est ça, être artiste, poète, je ne sais pas.
Alors tous ces prolongements, Charlie Couture, est-ce que c'est la même chose, par exemple? Est-ce que ce sont les mêmes motifs que l'on retrouve, motifs au sens large? Est-ce que ce sont les mêmes thèmes, les mêmes idées, les mêmes sensations que vous retrouvez, qui vous inspirent à la fois dans les supports visuels ou dans la musique, mais il y a aussi l'écriture?
Oui, beaucoup. C'est ce que je fais le plus. En gros, je dirais que dans ma vie, j'ai commencé ce que j'ai appris, c'est les arts visuels. Vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai commencé les classes artistiques des lycées. J'ai appris le piano aussi très jeune. Ma grand-mère était prof de piano, donc j'ai toujours été en une relation intérieure avec la musique. Et puis, mais ce que je fais le plus, c'est d'écrire, en fait, ce qui me permet de faire le bilan avec moi-même, de voir apparaître des choses que je ressens, on va dire. Alors, ce que le grand public connaît le plus, effectivement, c'est ce que j'ai fait dans le domaine de la musique. Ce que je fais.
Le grand public français.
Français, oui, oui, c'est
vrai.
Aux
États-Unis, vous n'avez pas la même image.
Bon, je n'ai pas vraiment d'image à New York. J'ai été inspiré par la ville et j'y ai trouvé ce que je cherchais. J'ai vécu pendant 15 ans, j'ai eu ma galerie, vous l'avez dit tout à l'heure, et j'ai vécu le New York dans ses tripes, quoi. Et c'était ça qui m'intéressait. J'avais le sentiment avant, quand j'y allais, d'être un peu, je suis passé de poux à puce. C'est-à-dire que j'étais accroché jusque-là sur un poil, alors que après je me suis nourri du sang de la bête, mais dans les proportions microscopiques.
Alors presque un vampire. Est-ce qu'il y avait justement un peu d'agacement quand vous êtes parti à New York de ne pas pouvoir travailler sur plusieurs supports en France, en tout cas de ne pas pouvoir diversifier son activité sans qu'on vous dise vous, c'est la musique
Disons qu'en fait, j'ai compris après pourquoi ça se passait comme ça. Ça m'empêchait pas de le faire. Mais comme en France, on est beaucoup dépendant du regard d'autrui, comme les gens connaissaient ce que j'avais fait dans le domaine de la musique, puisque c'est ce qui est apparu en premier, pour eux, c'était la référence. Donc j'étais, puisqu'ils me connaissaient comme chanteur, et puisque le regard d'autrui a tellement d'importance, c'était presque ce regard-là qui me définissait. Alors que moi, je n'avais pas le sentiment de simplement être résumé au Charlie Couture, le Lorrain, la Barbichette et la Voix Nasillarde, mais d'être...
L'Avion sans aile
dont L'Avion sans aile, Ciao Pantin et Toy Story un peu après, mais j'avais d'autres choses à essayer de mettre en forme, entre guillemets, et je pensais pouvoir le faire effectivement d'une manière plus sereine à New York.
C'est ce qui s'est passé.
C'est ce qui s'est passé, voilà, et pendant 15 ans, j'ai vécu de ma peinture là-bas.
Alors vous faites allusion à Ciao Pantin, on va vous faire écouter justement Coluche. Coluche, c'est une archive de France Inter de 83, du 16 décembre 83.
Quand tu fais du cinéma, c'est pas toi qui fais le film. Il y a un auteur et il y a un réalisateur. Alors toi, t'es que l'acteur, comme si t'étais dans la vitrine. Mais c'est pas forcément à ta taille le vêtement que tu portes, quoi. T'es le mannequin, on te le met sur mesure, mais c'est pas forcément à ta taille. Alors qu'au musical, évidemment, j'étais l'auteur et l'interprète, donc je faisais tout moi-même. Donc c'est pas pareil. Quand tu fais l'acteur, tu endosses un personnage qu'un mec a écrit et tu dois rentrer dedans et y mettre bon, ce que tu as de toi, mais tu peux pas aller au-delà de ce qui est écrit et de ce qui est prévu pour le personnage. Tu peux pas être Coluche si le personnage, t'es pas Coluche, quoi. Alors, et de toute façon, le principe, si tu veux, c'est que Coluche, c'est un personnage que j'ai joué, moi. J'ai joué un personnage qui s'appelle Coluche au musical et maintenant, j'ai joué un personnage qui s'appelle Lambert dans Ciao Pantin. Voilà.
Charlie Couture, on écoute Coluche, alors c'est pas pour rien, c'est parce que vous avez connu Coluche au Café de la Gare, oui. Il y a longtemps.
Bah oui.
Et que ensuite vous avez composé la musique de Ciao Pantin.
Oui, non seulement quand je venais à Paris, souvent je dormais chez lui d'ailleurs. Et l'occasion de faire cette musique, effectivement, qui a été liée à un film tournant dans sa carrière à lui, mais qui pour moi fait partie des références. J'ai fait une vingtaine de musiques de films, dont je l'évoquais aussi l'adaptation en français des chansons de Randy Newman pour Toy Story, par exemple, comme le 4 qui vient de sortir. Et au départ, je voulais être metteur en scène de cinéma. Alors, tous les coups étaient bons pour pénétrer l'univers du cinéma. C'est marrant que vous disiez ça, parce que j'entendais ça, parce que juste avant de venir ici, j'ai été invité à participer à un casting pour jouer un prêtre exorciste.
Ah, ça serait pas mal.
Ah, pas mal. Et donc, j'ai vécu cette expérience d'enfiler un costume, une soutane d'un autre, si je puis dire.
On écoute cette musique de Ciao Pantin.
Grille le cœur quand la mort fait trop peur. Dans la ville qui se referme, il y a de l'alcool dans les veines, du feu sous l'épiderme, de la poudre aux yeux qui traîne.
Alors la composition de cette bande originale, il paraît que vous la valez aussi à Véronique Colucci, oui. Qui vous dédiait aussi cet album.
Ah oui, tout à fait, oui. Bah, disons que quand je suis passé au Café de la Gare, après le spectacle de Coluche, à ce moment-là, il tournait Inspecteur la Bavure, j'ai découvert tout le monde qui tournait autour de Coluche à ce moment-là. Et on est resté en contact, et c'est comme ça que la proposition m'a été faite de travailler sur cette musique. Et par Véronique, qui m'avait toujours soutenu, on va dire.
Alors, il y a elle à qui vous dédiez cet album, Higelin?
Jacques Higelin, ouais, qui était quelqu'un qui a fait sortir, j'allais dire, la chanson de ses ornières, et y avait toujours les trois patriarches, Brel, Brassens et Ferré, et en dehors de ça, y avait point de salut. Et puis tout d'un coup est arrivé Higelin, qui a mis une espèce de coup de réacteur dans tout ça, et ça a ouvert un champ de possibles qui était considérable, parce que il abordait le fait de la chanson d'une manière un peu différente. Et même si moi, à ma manière, j'ai encore essayé d'utiliser les mots pour leur faire dire autre chose, je lui suis très reconnaissant d'avoir insufflé ce côté électrique amplifié dans une musique qui jusque-là était assez acoustique.
Alors ça, c'est la musique. Et d'ailleurs, la musique qui vous a influencé, c'est aussi la musique américaine. On entend
surtout, oui.
On entend quand même des résonances, oui, dylaniennes,
Lou Reed,
dans vos chansons.
Dylan, G.G. Cale, il y en a plein, oui.
Et il y a aussi cette synthèse de poète rock, vous vous dites, en tout cas, de mettre une sorte de poésie. Il y avait avant la chanson à texte en France, ouais, et la musique plus acoustique. Il a fallu, ouais, faire cette synthèse-là. Higelin est aussi de cette veine-là.
Oui, tout à fait. Ben, disons que la poésie, moi, je l'aborde dans le terme grec, dans le sens grec du terme poéime, qui veut dire faire, agir, être poète. C'est pas seulement regarder les oiseaux et les chenilles devenir papillons. Disons que ça, c'est la botanique.
Même les gypèdes, barbus.
Non, la poésie, c'est le fait justement d'assumer sa subjectivité, d'assumer son émotion. Encore une fois, dans une société qui est pragmatique et qui ramène les choses à un univers
matériel,
défini,
concret.
Matériel, concret, prévisible. Les orages, c'est pas le fait des dieux, c'est le fait de telles circonstances, etc., etc. Sauf que quand, à force d'avoir tellement le nez dans le guidon et de voir la société d'une manière tellement pragmatique, on voit souvent pas les évidences qu'on a, que justement les artistes s'efforcent de mettre de raconter, quoi.
Ah, sauf que Bob Dylan a été prix Nobel de littérature, donc quand même.
Oui, mais c'est pas une faute. Enfin, il n'est pas allé le chercher.
Il n'est pas allé le chercher.
Peu importe. Effectivement, toute cette écriture américaine m'a fasciné, parce qu'elle était spontanée, et il y avait une espèce de force latente qui dépassait simplement la technique et la maîtrise d'une méthode, on va dire.
Sur la question de la poésie, nous on a creusé les archives jusqu'en 1955. On est allé chercher Jean Cocteau, qui en parlait sur la RTF.
Rilke m'écrivait « Tous les poètes parlent la même langue. » Il avait raison. La poésie est une langue à part, alors que les peuples s'imaginent qu'elle est une certaine manière d'employer la leur. Langue sublime, morte et vivante, équilibre instable entre ce que nous croyons savoir et ce que nous savons ne pas savoir. Et si vous me demandez en cette grave minute à quoi sert la poésie, je vous dirai que, si j'étais capable de vous répondre, je ressemblerai à une plante qui se mêle d'horticulture. La poésie est indispensable. J'ignore à quoi. Elle m'a habité, torturé, condamné, brûlé, et seule une science que Salvador Dali baptise phénixologie serait apte à expliquer le pourquoi de cet autodafé atroce, mystérieux et magnifique.
Non, mais c'est génial.
Charles Couture, ça vous plaît?
Ouais, c'est très moderne d'ailleurs. Tout ce qu'il dit, j'aime beaucoup Jean Cocteau, justement parce que il était poète dans l'âme, pas seulement dans la forme. Et je suis aussi admiratif de son travail de plasticien, enfin pas tant de dessinateur. Oui, une certaine aisance, mais surtout dans ses films, La Belle et la Bête, c'est somptueux, L'Aigle à deux têtes, ou Orphée.
La création.
Voilà, c'est
de créature.
su, justement parce qu'il était porté par une envie, au-delà de savoir comment ça marchait, on trouve toujours le moyen de voir aboutir ses rêves quand on en a. Mais la poésie, c'est vraiment dans le sens qu'il évoque que je la comprends. J'ai eu la chance de rencontrer Éric Poindron qui a fait la jonction avec le Castor Astral, qui publie les 50 poèmes inchantables.
La mécanique du ciel.
De la mécanique du ciel. Et pour moi, ça a été une sorte de révélateur, et ou plutôt de fait d'acceptation de ce que je suis au fond. Artiste, ça fait peur. Chanteur, non, je me reconnaissais pas vraiment dans le goût pour la séduction d'un chanteur. Par contre, je me suis rendu compte que effectivement, avec dans l'espèce de grande liberté de la poésie, c'était là que j'étais finalement depuis toujours. Et en intitulant poème rock en 80 de ce titre-là, finalement les choses étaient déjà dites, quoi, finalement.
Mais elles étaient claires. Alors il y a ce côté poème inchantable, hein, la mécanique du ciel, faut expliquer, c'est un recueil qui reprend des textes qui datent pour certains de 1973 jusqu'à 2017.
Voilà, qui n'ont pas pour fin d'être chantés, mais lus.
Pas pour fin d'être chantés, ils étaient prévus comme tels dès le départ, ou finalement ils ne convenaient pas à une chanson, Charles et les Coutures.
C'est-à-dire qu'une chanson, je peux la réécrire 15-20 fois jusqu'à ce que le caillou soit suffisamment patiné, usé, poli comme un galet pour qu'il rebondisse sur la musique, si tu veux, qu'il fasse ses ricochets. Un texte de poésie, c'est un texte qui est plus comparable à une peinture de mots, qui se fait dans l'influx. Donc les mots chahutent, et c'est seulement quand on arrive à la fin qu'on comprend ce qu'on voulait dire quelquefois. Si tant est qu'il y a à comprendre quoi que ce soit, là, finalement.
Mais il y a quand même quelque chose à comprendre de ce rêve américain. Il y a des personnages que
bien sûr.
Justement, il y a le personnage d'Assa qu'on retrouve.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que toute la différence entre l'art et l'artisanat, elle est dans le fait que quand on est un artisan, on a une conscience en amont de ce qu'on va faire. C'est-à-dire, c'est un peu comme un archer qui connaît la finalité de son geste. Alors que être artiste, c'est presque se mettre à agir avant de réfléchir. C'est-à-dire qu'on se met en mouvement, on est mu par une pulsion qu'on a à l'intérieur de soi. Et puis c'est une fois qu'on a fait ce qu'on a fait qu'on dit c'est ça que je voulais dire, hein, d'accord. Ce qui veut pas dire que on ne doit pas avoir des techniques. Effectivement, il y en a qui sont dans l'improvisation permanente, mais on peut, quand mes enfants étaient petites, par exemple, au lieu de leur raconter des histoires, je les endormais en jouant du piano. En me mettant devant le piano, je savais pas ce que j'allais jouer, et c'était mes doigts qui parlaient à ma place. Et évidemment, le fait de savoir jouer du piano, ça me donnait peut-être plus de champ de prospective que si j'avais pas su en jouer, tu vois. Mais la technique, pour moi, c'est dans la mesure où, encore une fois, il n'y a pas de bataille, de combat entre l'artisan et l'artiste, mais que l'artisan est juste quelqu'un du conscient, alors que l'artiste est quelqu'un de l'inconscient. Quand on est soi-même mu par ses forces de l'inconscient, et il est bien d'avoir une technique, mais c'est pas la fin en soi.
Mais alors, ce travail sensible, il se balade un peu d'un support à un autre, parce que par exemple, vos poésies, de temps en temps, il y a une espèce de mise en page qui joue des formes, qui grossissent, maigrissent, où il y a une sorte de mise en scène dans la page qui ressemble presque à une fresque, à une peinture.
C'est vrai, mais c'est quelque chose qui me dépasse. Les œuvres de moi que je préfère, c'est celles qui me surprennent. Et quand je les vois accrochées, comme l'exposition qu'on vient de faire, qui a démarré à Cavalère, à la médiathèque, les voir tout d'un coup, même au milieu d'autres artistes. J'expose là-bas jusqu'à la fin du mois de juillet avec Jean-Marc Calvet et Claude Guénard. Voir mes œuvres là-dedans, c'est ça, alors voilà qui je suis par rapport à une autre personnalité. Je montrerai d'ailleurs d'autres parties dans l'exposition que je ferai à la rentrée chez Arnaud Barre à Boulogne, la galerie Arnaud Barre. Et quand je présente mon travail, tout d'un coup, c'est comme si je le regardais né de quelqu'un d'autre. Et je n'ai pas l'arrogance, entre guillemets, de dire oh, « oh, oh, c'est moi qui... » Non, c'est juste de dire « Oh putain, c'est pas mal ça. » Ce que j'ai fait qui me surprenne, c'est celle que je préfère, quoi.
Il y a eu une innovation dans cet album, c'est le fait de chanter, enfin, c'est pas une innovation, ouais. mais de chanter aussi en anglais. Il y a eu beaucoup de textes écrits en français, ça n'est pas tout à fait une innovation. Mais il y a eu ce mélange-là, mais peu finalement, puisque 15 ans passés à New York, on aurait pu imaginer l'album américain au retour.
Ben, je l'ai fait, cet album américain, et qui s'appelle Be Yourself, qui a été enregistré, qui est disponible sur mon site, mais qui n'est jamais sorti en France. En fait, en l'occurrence, quand je l'ai enregistré à New York, j'ai trouvé une maison de disques américaine qui voulait le sortir, et ils m'ont dit où est-ce qu'on va s'adresser à vos fans. Ben, je dis sauf que mes fans, ils sont en France.
Ouais.
Ah ouais, mais ah ben alors on va le sortir en France. Ouais, mais bon, si j'ai pas besoin de vous, si c'est pour sortir en France, moi ce qui m'intéresse, si je chante en anglais, c'est pour le public qui comprend ce que je dis. Les Français, ils apprécient le fait de comprendre justement le sens des mots que je raconte. Donc, alors ils ont dit oui, mais bon, il faut s'appuyer sur des choses qui existent déjà. Et si vos fans ils sont en France, il faut sortir en France. Ben, donc j'ai remis les choses en place et puis le disque existe, donc il est disponible en téléchargement sur mon site, s'appelle et c'est que en anglais. That's only in English.
No Alors là, problem. On va écouter un petit peu de français.
Ok.
Là, c'est l'histoire d'un lamentin, Charlie Couture.
Oui, c'est un lamentin, disons, c'est une métaphore. Hein,
c'est l'histoire d'un seigneur.
D'un gars qui va se faire lourder et qui se soude la gueule et qui passe par-dessus bord et on le retrouve le lendemain échoué. Disons, c'est plus un peu comme une comédie italienne, un peu.
Dans le monde de l'entreprise.
Dans le monde de l'entreprise, voilà. C'était une mauvaise idée, l'open bar. T'en avais marre de te faire brasser, toi qui faisais partie des seniors. Avant qu'on te jette.
Merci d'être venu aujourd'hui.
Merci de m'avoir invité.
Alors, je rappelle le nom de votre dernier album, Même pas sommeil, qui est disponible. Vous êtes également en concert à partir de cet automne. Les billets sont déjà en vente. Côté poésie, votre livre La mécanique du ciel, 50 poèmes inchantables au Castor Astral. Quant à la peinture, il y a cette exposition jusqu'au 31 août à la médiathèque de Cavalère, dans le Var. Quant à nous, je nous donne rendez-vous
en septembre chez Arnaud Bar à Boulogne, en banlieue de Paris.
Absolument. Nous, on se retrouve pour une nouvelle grande table demain. L'émission a été préparée par Pascaline Bonnet, Alexandra Brouillet-Chouchen, Jer Gaillon, Lou Le Joli et Julien Rosa, à la réalisation Marie Placé, à la technique Olivier Arnay. Je vous rappelle que cette émission est disponible sur le site franceculture.fr.